comme tous les mardis, en tout cas quand elle n'est pas en vacances, notre soleil hebdomadaire est arrivé. Bonjour Nehama.
Vous êtes vraiment méchant, Didier.
Pourquoi méchant? Je suis méchant en vous disant.
Vous vous moquez de moi de bon matin à 8h15 quand même.
Mais je me moque pas, vous avez une super mine. Attendez, vous et moi mis côte à côte, je le vois sur l'écran, c'est noir et blanc.
Non, mais quand je vous l'ai dit, je suis une juive séfarade. Je vois le soleil et voilà, je l'aime et j'en veux sur ma peau.
Ah bah oui, bah apparemment il est généreux avec vous plus qu'avec moi.
À défaut de vivre à Bruxelles, j'essaie d'en profiter.
Bah c'est très bien. En même temps, vous avez bien mérité ces vacances pour recharger les batteries que je vous c'est très généreuse à diffuser autour de vous, n'est-ce pas?
Oui, bah on va essayer de faire le mieux, effectivement. J'ai eu de très belles vacances, Didier. J'ai pu profiter vraiment avec mes 4 enfants qui étaient réunis avec nous. Et c'était vraiment un moment très important.
Bah, j'imagine
et
bien.
On a bien profité.
Bah, vous avez bien raison de le faire. Et puis, on est reparti pour une nouvelle année académique avec
absolument.
Vous.
Absolument. J'ai compté, je crois qu'on a genre 43 chroniques cette année.
Quoi, vous êtes en train de
vous allez
dire...
m'entendre là. Vous allez beaucoup m'entendre.
Ah, donc vous faites le décompte, vous, carrément.
Oui, vous savez, je fais ma planification de l'année. J'essaye de voir les thèmes dont j'ai envie de parler. Et donc, j'ai compté mes chroniques.
Moi, je ne fais pas ça parce que sinon, c'est trop déprimant de me dire il ne reste plus que 15 chroniques avec mes ramas.
Non, mais moi, je suis très contente d'avoir un si grand nombre de chroniques avec vous, Didier. Surtout, j'aime Radio Judaïka, j'aime ce studio, j'aime le retrouver. Vraiment, je me réveille avec beaucoup de plaisir le mardi matin. Donc, je voulais vous remercier de m'écouter, de me donner cette place.
Ah bah, moi, j'y suis vraiment pour rien, encore que j'aurais voté pour si on m'avait consulté, vous voyez. Bien, Nehama, vous m'avez dit, je voudrais parler d'Eloul. Alors, ce n'est pas en deux mots, hein, c'est un mois, Eloul.
Oui, exactement, hein, Didier. On va parler aujourd'hui du mois d'Eloul. En fait, on a la chance cette année d'avoir des fêtes plus tardives, quelque part, puisque Rosh Hashanah ne commencera qu'en octobre. Donc, on a vraiment tout un mois, tout le mois d'Eloul. Et le mois d'Eloul, c'est le mois qui est avant le premier mois de l'année. Donc, c'est le 12e mois de l'année qui est le mois dans lequel on se prépare, justement.
Cette année-ci, c'est 13 mois.
Ou bien alors, oui, vous avez tout à fait raison, Didier.
Ah,
on a fait,
vous voyez que je suis, hein.
Fait 13 mois cette année. Vous savez, je l'avais déjà oublié. J'ai vraiment passé de magnifiques vacances. Pour le coup, c'est 13 mois. Et donc, en fait, c'est le dernier mois de l'année. Et lors de ce dernier mois de l'année, Didier, on se prépare notamment à l'année à venir. C'est un moment qui est très cher à mes yeux, puisque vous savez combien j'aime l'introspection. Et donc, c'est un moment d'introspection qui parfois un petit peu passe à la trappe, parce que quand Rosh Hashanah commence le 5 septembre, bah, automatiquement, ce mois d'introspection, c'est en été. L'été serait éventuellement bien pour l'introspection, mais pas quand on est maman, qu'on a des enfants, qu'on a des obligations, que tout le monde s'attend à ce qu'on lui procure du plaisir dans la famille, etc. Et donc, on a moins le temps vraiment de travailler sur cette introspection, alors que quand on rentre un petit peu dans une routine journalière, voilà, on a plus de temps de se poser dans une routine quelque part, et la Torah nous donne l'opportunité, justement, avant Rosh Hashanah, de vraiment de nous poser et de faire ce travail.
Ah bah dites-moi, voilà, mais en même temps, ce qui me séduit vraiment dans cette chronique, hein, je parle de vous personnellement, ça, hein, voilà, mais franchement, c'est que d'année en année, ça va faire la 5e fois qu'on parle du mois d'Eloul et de l'introspection avec vous, j'ai toujours l'impression de redécouvrir.
Bah alors, c'est pour deux raisons, Didier, ou vous avez une toute petite mémoire. Ça, je ne reviendrai pas là-dessus.
Normalement, non. Ça va, mais bon.
Non, pas du tout, Didier. Je pense qu'on redécouvre chaque année. On redécouvre chaque année, absolument. On en a parlé il y a quelques années. D'ailleurs, on disait que le calendrier n'était pas un cercle plat, mais qu'il était une spirale. Vous vous souvenez? Et on avait dit pourquoi une spirale? Puisque le calendrier...
Infini.
Exactement. Le calendrier est rond, donc on revient sur les mêmes dates d'année en année, automatiquement. Mais pourquoi une spirale et pas un cercle plat? Parce que, justement, Didier, d'année en année, nous évoluons nous-mêmes. Nous sommes de nouvelles personnes. Et donc, comme nous sommes de nouvelles personnes, nous sommes riches de nos expériences, peut-être un peu bafoués de nos challenges, peut-être expérimentés de d'autres choses. Mais en tout cas, clairement, Didier, quand on arrive à la même date une autre fois, même si cette date nous vient avec la même information, nous prenons cette information très différemment puisque nous sommes des personnes différentes.
On évolue, en fait.
On évolue. Et j'aime bien donner l'exemple, Didier, vous ne célébrez pas votre anniversaire de 2 ans comme celui de 12 ans, comme celui de 24 ans, comme celui de 18 ans et de 40 ans, etc., etc. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on ne célèbre pas de la même manière parce nous sommes des personnes différentes et on a un rapport à la vie, un rapport à l'autre qui est différent d'année en année. Et ce qui est exceptionnel, Didier, c'est qu'en fait, quand vous retombez sur la même date dans le calendrier après un an, vous vous reposez la question puisque vous dites, ah, je célèbre encore une fois cette chose-là, mais quelle personne j'étais l'année dernière et quelle personne je suis devenue aujourd'hui. D'ailleurs, Didier, on vient juste de le voir, de le vivre, puisque pendant notre période de vacances, on se dit, ah, mais j'étais où l'année dernière à cette période? Et comment est-ce que je me sentais l'année dernière? Oh, je me sens beaucoup mieux, ou je me sens plus en difficulté, ou j'ai été challengée cette année, de quoi est-ce que j'ai grandi, etc., etc. Donc, la bonne nouvelle, Didier, c'est que revenir sur la même date d'année en année, c'est nous forcer quelque part
à faire le point
et à reprendre les choses à la case départ comme des autres différents. Et donc c'est ce qui vous donne à vous et à moi et à nos auditeurs, Didier, ce sentiment d'avoir l'impression de revoir quelque chose, de découvrir quelque chose de nouveau qui en fait est tellement ancien et qu'on a appris pendant tellement d'années. Alors on va rentrer quand même dans le vif du sujet, Didier, on est mois des loules. Alors je vous avoue que c'était pas évident de travailler sur cette chronique ce matin. J'aimerais vraiment la dédier à Carmel Gatt, à Eden Yerushalmi, à Hersh Goldberg-Pauline, à Alexander Lobanov, si je le dis bien, à Almog Saroussi et à Ori Danino. Parce que, en fait, Didier, de faire ce travail d'introspection, le cœur lourd, c'est quand même très difficile. C'est plus facile de le faire le cœur léger, quand on voit la vie en rose, et puis qu'on voit un avenir exceptionnel devant soi, etc. C'est quand même plus facile. Là, ce matin, Didier, ça fait déjà 332 jours qu'on se réveille, 33 jours, merci pour le décompte, qu'on se réveille le cœur vraiment lourd. Et nous vivons, Didier, un mois d'Eloul qui est différent que celui de l'année dernière. Puisque celui de l'année dernière, c'était un mois avant le 7 octobre, et celui de cette année, c'est un an, quasi un an après le 7 octobre. Et donc, clairement, Didier, l'actualité et les nouvelles de tous les jours, et notamment les nouvelles qui nous sont tombées ces trois derniers jours, font que notre cœur est beaucoup plus alourdi et quelque part on est vraiment en difficulté de faire un travail avec sérénité quand justement on a tant de peine et je le dirais, Didier, tant de colère, puisque la colère nous vient, Didier, et ça c'est quelque chose qu'il faut reconnaître. Je sais que moi c'est le sentiment de colère, c'est un sentiment que je n'aime pas, avec lequel je suis très mal à l'aise et que je n'aime pas faire face à cette émotion, et en même temps cette émotion elle est là, elle est présente. Et donc j'avais envie, Didier, de ramener un passage de la Torah que j'ai lu en préparant cette chronique, qui est la première phrase de la paracha qu'on a lue la semaine dernière. La paracha qu'on a lue la semaine dernière, c'est la paracha Ré'é. Et dans cette paracha, c'est quelques parachiot avant justement la fin des cinq livres de Moïse. Donc en fait, c'est un petit peu la legacy que Moïse va donner à
l'héritage,
merci beaucoup. L'héritage que Moïse va donner au peuple. Et on a l'habitude de lire cette paracha toujours dans le mois d'Eloul. Et donc justement, là, on l'a lu la semaine dernière, qui est juste quelques jours avant Rosh Chodesh Eloul, les premiers jours de Eloul. Et dans cette paracha, Didier, Moïse dit, en fait, il rapporte la parole de Dieu, et il dit, vois que j'ai mis devant toi la bénédiction, que j'ai mis face à toi la bénédiction et la malédiction. Et c'est un verset qui est assez compliqué, parce que Dieu dit qu'il a mis devant nous la bénédiction et la malédiction, et en gros il nous dit ben comporte-toi bien, puisque si tu te comportes bien tu n'auras que des bénédictions sur toi, etc., etc. Et les sages viennent nous poser la question et disent, mais pourquoi est-ce que on dit ré'é, voix en plus, voix au singulier. Voix au singulier, quand on vous parle au singulier, Didier, vous ne pouvez pas vous perdre dans la masse. Vous n'êtes plus la masse, alors qu'on sait très bien que Moïse parle à la masse. Mais vous n'êtes plus la masse, c'est à vous que Moïse parle, c'est au singulier, c'est à chaque individu. Et il nous dit quelque part, votre travail à vous, il est de vous voir, de te voir, et de choisir quelque part cette bénédiction sur la malédiction. Et j'avais envie d'interpréter cette phrase un petit peu différemment dans le contexte de l'actualité aujourd'hui, en nous disant, les choses qu'on voit aujourd'hui sont intolérables. Elles nous donnent pas envie de nous réveiller le matin, elles sont compliquées, et comme je le disais il y a un instant, elles réveillent en nous de la colère, de l'amertume, et on a l'impression de se sentir mais complètement maudit. On se dit, mais au final, quelle que soit la chose qu'on fait, ben ça ne marche jamais. On a vu la Rachel Goldberg-Pauline, vraiment ne pas perdre un instant, même une seconde, pour son fils. Elle a fait toutes les plateformes télévisées, toutes les plateformes politiques, elle a parlé à tout le monde. Elle a été la plus belle avocate de ses otages pendant ces 330 jours jusqu'à ce que la nouvelle arrive. Et elle s'est démenée et quelque part, Didier, on y a tous cru. On y a cru. On s'est dit, Hirsch va finir par rentrer à la maison, peut-être amputé d'une main, mais il va finir par rentrer à la maison. Et puis d'un coup, la nouvelle tombe et on apprend que Hirsch n'est plus là. Et je pense, Didier, que la réponse à notre grave douleur, elle est vraiment dans le discours d'éloge que Rachel a fait pour son fils le jour de son enterrement. Elle a dit des choses d'abord incroyables et je vous conseille vraiment d'aller le voir sur Internet. C'est un discours de 8 minutes qui est exceptionnel, dans lequel chaque mot est tellement précieux. Et ce qu'elle dit, elle dit... Je vous remercie à vous d'avoir été là pendant ces longs mois pour moi et je vous demande de rester. Et quelque part, Didier, on a envie de se dire, mais cette femme... Et elle termine, excusez-moi, Didier, son discours en disant, je veux remercier Hachem, je veux avoir la hakaratatod, la gratitude, Hachem, de m'avoir choisi moi en tant que mère et de m'avoir donné Hirsch en tant qu'enfant pour une vie aussi courte soit-elle, mais de l'avoir faite. Et je vais revenir, Didier, au verset de la Torah qui dit... vois devant toi la bénédiction et la malédiction. Didier, on se trouve dans une situation très très compliquée dans laquelle, honnêtement, nos yeux de physique, matériel, nos yeux de notre corps ne voient que de la malédiction, ils ne voient que du malheur, ils ne voient que de la difficulté. Et quelque part, Rachel, elle a cette capacité, elle a eu cette capacité et cette générosité du cœur en disant, en regardant la bénédiction à travers la malédiction. Et elle dit, je remercie pour ces belles années. Moi, j'ai pu être mère de Hirsch pendant tant d'années et je remercie. Elle remercie son public d'avoir été là pour elle et elle lui demande à son public de continuer à être là dans ces moments de difficulté et dans ces grands moments d'obscurité. Et quelque part, Didier, j'ai envie de vous dire, mais c'est nous. C'est à nous de remercier Rachel. C'est-à-dire qu'on peut écouter ses nouvelles et on peut être complètement tellement abattu qu'on n'a plus envie, on n'a plus la force en nous vraiment de nous battre. Et de l'autre côté, donc on décide de voir la malédiction. Mais on peut aussi, Didier, décider de voir la bénédiction et de se dire, quelque part, la grandeur de cette femme qui s'est dépassée, qui s'est transcendée. Bien sûr qu'on aurait aimé que son malheur n'ait jamais eu lieu, mais le malheur étant là, cette femme est un rôle modèle. Et quand je parle de cette femme, je parle de cette femme en tant que représentante de tous les parents d'otages. C'est pas le seul parent d'otage. Il y a des parents d'otages qui n'ont pas cette plateforme et qui vivent absolument le même calvaire. Et je pense que le courage, Didier, de ce peuple, de continuer à se battre tous les jours.
C'est ce qu'on se dit depuis maintenant presque un an. C'est toujours toutes les témoignages des familles d'otages, ça force le respect parce que c'est d'une humilité, c'est d'une propreté, j'ai envie de dire.
Oui.
Il n'y a pas un seul appel à la vengeance.
Pureté.
C'est ça que je cherchais.
Exactement, je sais.
Vous avez raison. Et c'est ce côté leçon de vie alors qu'ils ont vécu l'indicible d'une certaine façon. Et c'est ce non-appel à la vengeance, ils n'expriment pas une colère. Ils essayent d'être dans l'apaisement. Avec, il faut bien le dire, c'est tout à fait spontané parce qu'ils n'ont pas derrière des politiques qui leur disent mettez-la en veilleuse.
Absolument.
Au contraire,
avec
c'est
la
juste
dignité, avec dignité, Didier. Ils font ça avec dignité. Et donc je veux revenir sur cette phrase, Didier, quand il dit regarde la bénédiction et la malédiction. Didier, c'est à nous de choisir de regarder dedans la bénédiction. Je le répète, ça ne veut pas dire qu'on va remercier pour ce qui s'est passé. Ce qui est passé est indicible. Mais en même temps, de voir notre peuple réagir d'une telle manière, avec une telle grandeur d'esprit, quelque part, comme vous dites, ça force le respect et ça nous oblige, Didier, à show up. Ça nous oblige à nous réveiller le matin, à nous dire, mais une seconde, maintenant c'est le mois d'Eloul, mon travail aussi, il est de me regarder en transparence, de regarder quelles sont les choses que je peux changer, où est-ce que je peux évoluer pour ma famille, pour mon peuple et pour moi-même. On va continuer là-dessus la semaine prochaine.
Bah oui, bah, malheureusement, j'ai presque envie de dire, en tout cas, le mois d'Eloul, c'est pas malheureusement, mais sur ce sujet-là, c'est toujours extrêmement émotionnellement compliqué. C'est presque schizophrénique de parler de ça et de terminer sur un sourire.
Absolument.
Mais c'est notre métier. Merci beaucoup,
Nehrama.
À la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Les vacances, je continue de vous le dire, vous vont incroyablement bien.
Merci beaucoup.
Belle journée à vous.